Salut à toutes et tous, c'est Queen Jolinard et bienvenue dans la pastille X.
Émission spéciale.
Et donc voilà, comme prévu, aujourd'hui nous allons débriefer en compagnie de Quentin le numéro 2 de la mini-série Inferno de Jonathan Hickman. Donc Quentin, je suis ravi de te retrouver à nouveau suite à notre émission sur Xbox. Salut!
Salut, je suis ravi d'être là de nouveau, merci beaucoup. Surtout que j'aime vraiment beaucoup Inferno pour l'instant, donc je suis très content, merci.
Et bien justement, qu'est-ce que tu avais pensé du premier numéro?
J'avais vraiment beaucoup aimé déjà le premier numéro. Ça m'avait permis de me remettre un peu dans le bain, de reparler de Oxbox avec vous récemment. Et j'avais bien aimé aussi les numéros X-Men récents, là, qui repartaient au numéro 1 il y a quelques mois. Et j'ai beaucoup aimé le premier numéro de Inferno. Ouais, déjà, on ouvrait sur une espèce de petite core team. Moi, j'aime beaucoup la X-Force et là, l'ouverture avec Domino, Kid Omega et Wolverine, j'avais vraiment adoré. Franchement, j'ai trouvé ça assez dingue, ce combat contre Nimrod comme ça dès le départ. Il y avait beaucoup de choses, je trouve, quand même sur ce premier numéro Inferno. Je l'avais relu deux fois quand même. Il y a un dialogue à un moment avec Destiny et My Hero que j'avais trouvé vraiment glaçant. Je préfère l'écriture de Hickman là-dessus, je pense, pour l'instant. Le cliffhanger de fin m'avait vraiment beaucoup plu. J'aime beaucoup, beaucoup, on va en reparler, je pense, sur le deuxième numéro, mais j'aime beaucoup le personnage de Mystique. Et du coup, je suis ravi qu'elle soit autant en avant pour l'instant sur ces deux numéros. Donc, pour l'instant, ouais, c'est super. C'est en quatre numéros, je crois,
Tout
Inferno.
à fait.
Ok, d'accord, merci.
Avec un dessinateur différent à chaque fois.
Ouais, c'est ça.
Donc la dernière fois, c'était dessiné par Valerio Chiti, qu'on avait pu voir particulièrement dans la série X-Factor. Et là, cette fois-ci, c'est dessiné par Stefano Caselli, qui retrouve Jonathan Hickman. Alors je crois qu'ils avaient travaillé ensemble sur la série Secret Warriors, donc ça remonte à assez longtemps. Je revérifierai pour le confirmer. Et c'est colorisé par David Curiel. Donc ouais, le premier numéro, t'avais adoré, comme moi. Plein plein de choses, un cliffhanger de malade, et du coup, ce qui est bien avec ce numéro 2 d'Inferno, c'est qu'on enchaîne directement par la suite.
Ouais, c'est ça, ouais. Et on revoit même quelque part des éléments qui se passent avant. Je trouve ça très intelligent, cette narration comme ça.
On commence par la suite, donc avec Mystique qui introduit Destinée comme potentiel nouvel membre du conseil. Du conseil silencieux et donc comme tu l'as dit effectivement il y a une série de flashbacks qui nous montrent un peu justement comment Mystique a réussi à faire revenir Destinée parce que ça c'était quand même la chose importante pour nous lecteurs, c'est-à-dire que depuis le début de Dawn of X, et je crois que c'était même déjà sous-entendu dans House of X Powers of Ten, il était question que Destinée ne devait surtout pas être ressuscitée sur demande de Moira MacTaggert. Alors, j'ai dit des bêtises. Stefano Caselli a particulièrement travaillé avec Hickman sur son run d'Avengers. On l'a connu aussi pour certaines apparitions sur Amazing Spider-Man. Récemment, il a travaillé sur la période Invincible Iron Man avec Iron Heart. Et puis, encore plus récemment, dans la période House of X Powers of Ten, il a notamment travaillé sur quelques numéros de Marauders. Mais, effectivement, là pour le coup je ne me suis pas trompé. Caselli retrouve bien Jonathan Hickman après leur toute première collaboration qui était sur la série Secret Warriors.
Et du coup, ouais, ces premières pages, aussi bien, du coup, là, ça peut faire la liaison parce que qui se passe avant, je les trouve très très belles ces deux, trois premières pages silencieuses comme ça, où on est dans la peau de Mystique qui va se changer plusieurs fois pour pouvoir ressusciter, faire revenir Destiny comme ça. J'ai trouvé ça super chouette. Qu'elle se fasse passer pour Charles comme ça, pour pouvoir parler à Sinister et ensuite le passage avec Hope comme ça, j'ai trouvé ça hyper intelligent en fait.
Ah oui, elle avait vraiment un plan bien huilé, mais c'est...
Ah ouais.
Alors, il y a un petit bémol, selon moi. Je pense qu'il faut quand même être capable de suspendre son incrédulité. Je suis surprise qu'il n'y ait pas plus de sécurité, quand même, autour du protocole de résurrection, d'une part, et ouais. Autour des casques cérébraux, d'autre part. Parce qu'elle arrive à dérober le casque cérébraux de Magneto de façon... d'une simplicité assez confondante.
Ouais, alors moi c'est vrai, j'ai pas pensé à ça. Moi c'est peut-être plus la réponse de Hope qui me surprend, tu sais. Genre ça va assez vite finalement, elle dit ah ok d'accord, elle met le casque et hop, c'est intelligent de la part de Mystique, mais c'était un peu, il fallait oser quand même, parce que si Hope avait dit non, tout tombait à l'eau un peu, tu vois. Et cette idée là.
Oui, elle comptait certainement sur l'aura de Charles qui permet tout ça. Ouais. Il faut bien dire que Krakoa, c'est la création de Charles en premier lieu, officiellement. Ouais. Magneto en second, alors qu'en réalité, bon, le personnage Zéro, c'est Moira MacTaggert, mais il n'y a que eux deux qui sont au courant.
Ouais, c'est vrai. Et ensuite, on a cette... je sais pas si tu voulais aller peut-être si vite ou pas, mais juste après, il y a le dialogue Mystique et Destiny qui est assez intéressant. Moi, Destiny, personnellement, c'est un... ou Destiné, si tu préfères. C'est un personnage que je connais quand même pas énormément.
Ah bah, non plus, moi, je l'ai découverte avec Xbox. Hein.
Ah, bon, d'accord. Oui, ok, bon, bah, donc, pareil. Et, mais est-ce que c'est un personnage qu'on voyait avant ou pas du tout?
Ah bah, très certainement, oui. Je crois que ça a été un personnage important de la confrérie des mauvais mutants du temps où c'était Mystique qui l'a dirigé.
Ah, il me semblait bien. Ok, d'accord. Et donc là, ce dialogue, même sans avoir ce potentiel background là que moi je n'ai pas du tout, je trouve assez poignant quand même. Avec ensuite les différentes semaines, les 4 semaines qui défilent comme ça, c'est beau, je trouve, ces retrouvailles comme ça. Et puis tout ce qui lui arrive à elle, du coup, t'imagines emmagasiner ça comme ça d'un seul coup. Je trouve ça brillant dans l'écriture, ce passage là.
Ah bah, dans ma tête, je criais bravo les lesbiennes. Hein.
ouais.
Mais oui, effectivement, ça m'a touché, ouais. Ça m'a touché, ça m'a fait plaisir de voir cette relation. Elle est bien écrite, elle est sincère, ouais. Donc ça fait vraiment extrêmement, extrêmement plaisir. Pour le coup, c'est rare quand même de voir Hickman se positionner sur des relations, sur du sentiment, et là, il le fait bien, je trouve.
Oui, c'est vrai, ouais, exactement.
Et donc du coup, premier retournement de situation, alors c'était attendu avec enfin, on pouvait le craindre, je dirais, avec le cliffhanger du premier chapitre, mais donc Destiné, le vote pour l'intégration de Destiné arrive en sa faveur, contre certaines attentes, avec des retournements de situation assez malins, assez habiles. Vraiment, le plan de Mystique est rondement meudé. Elle a su jouer avec chacun de façon extrêmement habile sur sur chacune de leurs forces et faiblesses. Elle a vraiment bien calculé son coup à la voix près, quoi.
Oui, j'ai beaucoup aimé ce passage où on voit qu'elle va voir tout le monde un par un. Là, c'est vraiment de l'écriture pure Mystique. Encore une fois, ça paraît ce que j'aime beaucoup et j'ai adoré ce passage-là. Pour certains personnages, ça paraît assez logique. Diablo qui lui dit tout de suite oui, pas de souci. Le Exodus aussi. Alors c'est pareil, c'est un personnage que je ne connais que très peu, mais le passage avec Sinister m'a fait rire. J'aime bien.
Il est génial ce passage.
Forcément, voilà. Même Kitty, c'est tout de suite. Non, bon.
Alors je connais pas le passif, mais je suppose qu'il y a une histoire entre Mystique, Destiné et Kitty, et Kate, qui doit justifier son nom très catégorique et enfin ouais. Elle perd pas de temps pour le poser. Hein.
Ouais, c'est ça. Et ensuite c'est Sebastian Shaw.
Oui. C'est surtout aussi, ouais. La manipulation sur Sebastian Shaw et Emma Frost. Ouais. Parce que Mystique joue sur l'antagonisme entre Shaw et Frost pour dire elle va dire non, donc t'as qu'à dire oui. Sauf qu'en fait, elle fait en sorte que Emma Frost dise oui.
C'est ça, exactement.
C'est très fort.
Et, Et ce passage-là me fait dire, dans l'écriture comme ça, que on voit bien que même s'ils siègent tous au conseil comme ça, tous et toutes là, ces persos-là, en fait, c'est juste. Enfin, ça reste quand même, il y a un côté un peu pic politique, ça reste des gens qui ont des intentions comme ça personnelles. Enfin, même Diablo, bon bah ok maman, voilà je te suis, et puis même ils sont tous comme ça sur des rancunes ou des jeux de pouvoir comme ça, ça fait un peu château de cartes, tu sais, House of Cards ou quoi, je trouve, j'ai vraiment aimé ce petit passage là. Elle va soudoyer comme ça chaque membre individuellement, je trouvais ça très très fort. Ouais.
Et donc après il y a une séquence avec Orkis, il me semble, non?
Ouais, c'est ça, entre Omega et Nimrod avec un dialogue. Je pense, alors tu vas me dire un peu ce que t'en as pensé, c'est typiquement sur ce genre de passage que j'étais content de relire le numéro, c'est que j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui va devenir important sur ce niveau là. C'est qu'une page ou deux, hein, je crois, ce passage là de souvenir, je l'ai pas sous les yeux là, mais j'ai vraiment l'impression, c'est peut-être une théorie complètement fumeuse, mais que Omega, c'est peut-être une espionne qui bosse pour les X-Men ou qui, enfin j'ai vraiment l'impression qu'elle cache quelque chose. Peut-être. Alors, que je me trompe totalement.
Il est possible qu'elle ait son propre plan, effectivement. C'est pas impossible, effectivement. Elle a son dialogue avec Nimrod n'est pas anodin. Les informations qu'elle obtient de Nimrod sont assez intéressantes pour elle, mais aussi pour nous en tant que lecteur et lectrice. Donc, alors, est-ce que pour autant ça ferait d'elle une sorte d'agent double, je ne pense pas. Peut-être que elle pourrait agir de sorte à, par exemple, empêcher une action d'Orkis au dernier moment et marchander, en fait. C'est grâce à moi, donc je demande ça en contrepartie. Je verrai plus ça. Je pense pas qu'elle soit pro-mutant, mais non, je pense qu'elle a peut-être un plan qui nécessiterait qu'elle obtienne quelque chose de la part des mutants.
Ouais, ok. Bah, je suis curieux de voir où ça va sur ce côté-là. Par contre, le côté Nimrod autour de simulation, tout ça, je vois pas. Enfin, j'ai peut-être loupé quelque chose sur cette partie-là
du dialogue. En gros, c'est simple. C'est un ordinateur vivant.
Ouais.
Donc il a calculé tous les scénarios possibles et imaginables, et c'est comme ça qu'il a appris et qu'il a rattrapé en gros tout le temps perdu. On pourrait dire ça comme ça.
Ouais.
C'est juste pour expliquer que il y a peu de situations, il y a peu de paramètres qu'il n'est pas envisagé. Donc peut-être, justement, si on reste sur notre théorie, ça permet à Omega justement de tester que il faut être sûr qu'il est pas cette variable en tête, quoi.
Ouais, ok. Non, bah c'est ce que j'avais compris. Ok, d'accord. Merci. Ouais, en plus, il reste plus que deux numéros pour avancer là-dessus. Ouais, je suis très curieux de savoir où on va là-dessus avec ce personnage de Omega.
Ça va être deux numéros, encore une fois, assez denses. C'est vrai que c'est difficile d'imaginer là tout de suite. Ce qui va advenir par la suite. Donc, après cette interlude chez Orkis, on retrouve Charles et Magneto chez Moira MacTaggert, qui, bien entendu, prend très mal la mauvaise nouvelle.
C'est ça. C'est fort, je pensais pas ce dialogue là, j'ai vraiment beaucoup aimé quand elle dit tout de suite il faut la tuer, et Magneto qui lui répond j'ai attendu, hors de question, j'ai attendu toute ma vie pour avoir quelque chose comme Krakoa et tout ça. J'ai vraiment aimé l'écriture aussi sur ce genre de passage. J'ai l'impression, mais c'est peut-être moi, hein, mais je l'avais déjà expliqué, je suis pas archi fan de Hickman, même si je reconnais parfaitement tout son talent, mais j'ai l'impression que pour l'instant, Inferno se recentre un peu plus sur les personnages, en fait. Typiquement, là, ce genre de passage, c'est juste quelques bulles, mais là, Magneto qui nous dit ça, je le ressens vraiment. En plus, c'est peut-être plus parce que c'est des personnages qui me parlent, hein. Je le disais tout à l'heure avec Mystique, par exemple, ou je ne sais pas, mais je trouve que ça marche très 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 bien, ce genre de passage, là, ce dialogue avec Moira et Charles et Magneto, je trouve vraiment très bien écrit.
Bah là, ils sont face à toutes leurs contradictions et aussi ils sont face à, comment dirais-je, là on les, comment dire, les trois personnalités qu'ils ont, quand bien même ils avaient réussi jusqu'ici à composer avec leur objectif commun, ils sont arrivés à une impasse là.
C'est ça.
Est-ce que ça continue, est-ce que aller aussi loin que ce qui est suggéré sera intéressant?
Ouais,
enfin, correspond à mes ambitions, à mes objectifs. Je voudrais revenir juste deux secondes sur un truc par rapport à la scène sur Orkis. Ils développent leur propre technologie de téléportation, enfin de portail.
Ah oui, mais c'est
ça. Et ça, c'est pas anodin non plus.
Non.
Ouais, ouais. Donc peut-être vont-ils avoir un portail. Là, pour l'instant, ils cherchent à se téléporter au Terra Verde, mais peut-être qu'en fait, leur objectif, ça serait de hacker les portails krakoens.
Ouais.
Et là, bonjour les dégâts.
Ouais. Est-ce que ça, par contre, je me demande si ça, c'est une petite critique quand même. Si, est-ce que ça arrive pas un peu tard là? Est-ce que ce truc-là, ça aurait pas pu être... J'ai l'impression que c'est quelque chose qui, comment dire, que Kickman rajoute que maintenant, si tu veux. C'est peut-être quelque chose qu'ils auraient pu imaginer un peu plus tôt, mais bon, dans l'écriture globale de tout ça. Mais bon, ça, c'est petite parenthèse, c'est pas très grave.
Bah, c'est tous les problèmes qu'ils ont eu dont on a déjà discuté par le passé. Dans d'autres cas où on disait que voilà, Hickman avait un projet en tête, mais sauf que là, ce qu'il avait prévu peut-être de décrire sur un an et demi peut-être au travers de la série X-Men et des Giant Size, il a dû l'étaler pour pouvoir atteindre d'abord Ten of Swords, puis ensuite Inferno. Oui. Donc oui, effectivement, ce serait arrivé plus tôt, mais en fait, Inferno serait arrivé plus tôt.
Oui, oui, de toute façon, effectivement.
C'est surtout
ouais.
Ça.
Ouais, ok, autant pour moi.
Ensuite, donc, on a tout un passage, c'est bien en le relisant que j'ai fini par comprendre, centré au départ sur Sage, qui, en fait, n'est pas Sage.
Non, c'est ça, c'est Mystique encore, ouais.
Mystique qui se fait passer pour plein de personnes au fur et à mesure et qui finit par, infiltrer une nouvelle zone d'Orkis, donc située à Paris. Et à Paris, il se passe autre chose en même temps. C'est une visite au Louvre entre Moira MacTaggert, Charles Xavier, Magneto et Emma Frost.
Emma Frost surtout, ouais. Ouais, c'est ça.
Et donc là, c'est une première solution qu'ils envisagent pour contrer l'arrivée de Destinée, c'est qu'il y ait une nouvelle personne qui soit dans le secret, Emma Frost, et fallait quelque part s'y attendre, ouais. Parce que je crois qu'il y avait une... je crois que c'était un peu sous-entendu dans Oxbox, mais c'est que Emma Frost, elle le prend très mal.
Ouais, c'est
elle
ça,
le
c'est
prend
ça.
Très mal.
Quand elle...
Ouais.
Ouais, vas-y, pardon.
Non, vas-y.
Non, je vais juste rajouter... Enfin, quand elle repasse sur son visage en glace comme ça et qu'elle se ferme, tu te dis qu'elle a perdu la loyauté qu'elle avait envers eux. C'est assez fort aussi, je trouve, ce passage-là. Hein.
Bah, ce qu'il y a surtout, c'est que... on se rend compte que vraiment, ça fait 10 ans diégétiquement que Xavier et Magneto préparent Krakoa. Hein, parce qu'on se rappelle, hein, dans Powers of Ten, l'année X0, c'est la rencontre entre Moira et Charles qui lui dévoile les choses, et l'année X1, c'est Krakoa. Et en fait, on n'y pensait pas vraiment que pendant 10 ans, ils ont mis tout en place. On a fini par l'oublier un peu, ça. Et là, Emma nous le rappelle assez justement, enfin, au travers du personnage d'Emma, Hickman nous le rappelle que pendant 10 ans, les mecs, ils ont travaillé dans l'ombre, ils ont laissé faire plein de choses pour pouvoir arriver à Krakoa. Et quelqu'un comme Emma Frost, qui adore manipuler mais déteste être manipulé, ne peut que être extrêmement déçu et énervé de cette situation.
Ouais, complètement. Et puis là, tu te dis que, pareil pour le futur, il faut qu'il fasse attention parce que selon ce qu'elle elle a envie de faire ou ce qu'elle peut faire, mais Emma Frost, c'est un sacré ennemi, je pense, tu vois. S'il se la met à dos, ça peut. Il faut qu'il fasse très très attention. Je pense qu'on va la revoir et que. Je sais pas ce que tu en penses, mais à mon avis, ça sent pas bon là, tu vois.
Et puis, le numéro termine par quelque chose qu'on aurait pu attendre, puisque c'était sous-entendu dans les premières pages du premier chapitre d'Inferno, c'est qu'il y avait deux places vacantes dans le conseil, donc certes destiné rejoint, mais il y a quand même un autre poste à remplir qui était occupé autrefois par Jean Grey. Donc c'est l'introduction de Colossus comme nouveau membre du conseil silencieux. Avec cette dernière phrase, en lui on peut lui faire confiance, in him we can trust. Et c'est là que je vais aller dans une zone spoiler qui va concerner une autre série, qui est la série X-Force. Je vais pas en dire trop, mais si les scénaristes ont bien travaillé ensemble, ce que je peux espérer, parce que Benjamin Percy est un des plus impliqués dans la narration globale de la franchise mutante, clairement les lecteurs de X-Force savent que cette phrase, faut pas la prendre au premier degré. Et donc ça annonce encore une fois quelque chose d'assez explosif. Et vraiment, plus ça va, plus tout le château de cartes mis en place par Charles et par Xavier et Magneto est en train de s'effondrer. Et c'est. J'arrive pas à savoir s'il faudrait presque s'en réjouir. C'est un peu triste quand même, parce que c'est une belle utopie. Mais ça va permettre beaucoup d'histoires. Ces retournements de situation successifs.
Ouais. Et en plus, comme ça m'embête de ne pas avoir lu le numéro de X-Force, parce que du coup, je suis pas trop sûr de savoir ce qui se passe exactement avec Colossus de toute façon. Mais ouais, ça me donne vraiment envie de savoir où ils vont. Et du coup, ça va me permettre de te poser une question. Je préfère te demander directement, j'ai pas envie de regarder ça là sur internet. Mais est-ce que tu sais ce qui est prévu après Inferno?
Non, pas trop. J'ai pas trop regardé au niveau des sollicitations. Je sais qu'il y a des séries qui n'ont pas été sollicitées pour le mois de janvier.
Oui, j'avais suivi et j'avais aussi vu chez Marvel une espèce de grande frise avec des différents événements importants qu'elle est arrivée là.
Et il y en a un seulement pour les mutants qui est Lives of et Deaths of Wolverine.
Oui, ok, c'est ça. Oui, mais du coup, qui sera pas un truc aussi aussi fort que aussi important que là Inferno, je pense. Enfin, c'est peut-être un peu à part. Je pense que si c'est autour de Wolverine.
Je suis pas sûr que ça fasse beaucoup avancer, surtout la zone.
Sur Krakoa.
L'intrigue krakoenne au sens large.
Ouais, c'est ça. C'est assez surprenant du coup de se dire qu'ils finissent sur ce cliffhanger là et qu'il faudrait. Si tu lis pas X-Force, tu sais pas. Je pense qu'il y aura une piqûre de rappel quand même au début de Inferno 3 pour remettre dans le contexte de où on est ce Colossus. Pour les gens qui seraient pas au courant de. Qui liraient pas X-Force. Surtout que
la surprise sera présente, au moins pour eux. Je pense qu'en fait, d'un côté, soit les gens seront surpris, soit ceux qui savent se disent comment ça va aboutir, quoi.
Ouais.
Est-ce que va y avoir un vrai lien à ce niveau-là? C'est pas sûr en plus, hein. C'est vraiment pas sûr.
Ouais, okay.
Donc, bilan, que penses-tu de ce numéro de Inferno?
Eh ben, j'ai vraiment adoré. Déjà visuellement, c'est toujours aussi cool, je trouve. Je trouve ça toujours très très beau. C'est un petit pari quand même aussi de changer d'artiste comme ça sur chaque numéro, mais ça reste cohérent. C'est Silva, je crois, sur le troisième, c'est ça, de tête. Il me semble qu'il faut revenir RB Silva sur le prochain.
Oui, c'est ça.
Ouais, c'est ça. Et puis Bobby, j'ai vraiment adoré. Les choses avancent bien. Encore une fois, centrer ça en grande partie autour de Mystique, ça me réjouit fortement. là que le conseil est au complet cette fois-ci. On va voir où on va. Il y aura peut-être une espèce de duel Destiny. Moi, il y aura, je suis très, très curieux de voir où on va là-dessus. Et finalement, il n'y a pas du tout d'action sur ce numéro-là. Et pour autant, il se dévore comme il faut. Alors, encore une fois, chez Hickman, il y a un petit problème entre les deux, trois premières pages silencieuses, magnifiques, où tu comprends tout visuellement, et alors que derrière, tu as des passages qui sont un peu bavards, je trouve quand même. Il y a des moments où il y a vraiment des bulles très, très complètes comme ça. Mais pour autant, je trouve que c'est toujours aussi dense. Hein, c'est quand même bien complet comme numéro. Si tu sors de là, tu as l'impression de lire un numéro de 60 pages, je trouve un peu. Mais c'est toujours aussi bien, vraiment. Très curieux de savoir où ils veulent aller aussi avec Orkis. En parallèle comme ça, et du coup j'ai vraiment hâte de lire le troisième numéro. J'avais noté ces premiers mercredis de décembre, je crois.
Je suis en train de regarder les sollicitations du coup pour le mois de janvier. Donc à part les premiers numéros de 10 Lives et 10 Deaths of Wolverine, pour l'instant je vois pas grand chose de particulier. Il y aura un annual de Marauders. Mais pour le reste, pas grand chose de particulier, pas de nouvelles séries ou mini-séries particulières, donc en dehors des 10 Lives, etc. Non, vraiment pas grand chose, mais surtout pas grand chose en séries mutantes, j'ai l'impression. Ça va être assez léger comme programme au mois de janvier. Parce qu'à part X-Men, l'annual de Marauders et New Mutants, je ne vois rien.
Ok, d'accord. Et de mon côté, du coup, je viens de regarder sur le site Marvel.
Ah si, l'arrivée d'une mini-série Sabretooth.
Ah, super. Pardon, c'est écrit par qui ?
C'est intéressant parce que ça... rappelle-toi que dans Oxbox, ils l'ont condamné dans un espèce de...
Ah oui, bah oui, merde.
Dans la fosse, là.
Ouais, en plus c'était chouette comme... Non,
autant que moi, je suis 10 ans. Donc ça peut être intéressant de voir justement, au final, quel est vraiment le destin des personnages qui ont cette condamnation. Alors pour l'instant, il est le seul, il me semble, mais pourrait y en avoir d'autres.
Ah non, en plus je suis médisant parce que lors de ton podcast Oxbox, je disais que justement cette idée-là... C'est assez brillant de se dire qu'il est juste dans un vide. C'est vraiment l'éditorial qui se dit on peut pas l'utiliser, du coup on le met là-dedans. Je trouve ça intelligent. Donc curieux de savoir un peu ce que ça peut être que ça meurt tout.
On peut pas l'emprisonner parce que classiquement, un vilain dans un univers de super-héros, il s'évade toujours. On peut pas le tuer parce que chez les mutants, tous les morts peuvent être ressuscités. Donc on fait quoi ?
Du coup, le
effectivement, néant, ouais. C'est une mise de côté éditoriale, comme tu avais dit, et avec cette possibilité, au moment opportun, de le faire revenir pour raconter quelque chose de potentiellement intéressant. En tout cas, je pense que cette série s'annonce bien plus intéressante et prometteuse que ne l'a été la mini-série Juggernaut, qui n'avait pas apporté grand-chose de particulier. Si dans X-Men aussi il y a un événement important dans la série X-Men, ce sera l'arrivée du personnage de Captain Krakoa.
Ah bah oui, ok, oui, ça j'ai vu passer. Ok.
Donc qui est ce personnage ? Qu'est-ce qu'il va apporter ? Ça effectivement, ça pourrait être intéressant. Même si dans son design, j'ai juste l'impression que c'est Cyclops, quoi. Parce que sur la couverture, c'est le seul absent de l'équipe, donc...
Alors, et du coup, je vais me permettre, là qu'on parle de sollicitations, de janvier, tout ça, je vais me permettre de préciser que pour moi, la grosse, 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 grosse news, et du coup, je sais pas si toi, t'es autant hypé par ça que moi, mais c'est le retour de... alors, ça s'appelle Excellent, de Peter Milligan et de Michael Red, qui revient en février. Et ça, c'est la X-Statics. Et
okay.
il y avait un numéro en 2019 et sur lequel il disait à la fin, quatrième de couverture, les X-Statics reviendront. Et avec le virus, il y avait eu tout plein de mauvaises nouvelles autour de ça. Moi, je suis un très grand fan de Michael Red, c'est vraiment un de mes dessinateurs préférés. Et finalement, ils vont quand même réussir à faire revenir l'équipe de X-Statics, donc là, sous le nom The Excellent, à partir de février. Donc pour toi qui lis les numéros X, je pense que tu tomberas dessus. Moi j'adore vraiment X-Statics, c'est vraiment, j'en ai déjà parlé je crois, c'est vraiment quelque chose que je trouve incroyable en comics.
J'ai jamais lu.
Ok, bon, bah, il y a pas énormément de, numéros, hein, ça va, c'est finalement assez vital. Enfin, il existe un omnibus et il y a quasiment tout dedans, en fait, si tu veux. Puis il faut aimer le style visuel de Allred, hein, ça par contre, ça sort vraiment du lot, mais moi je trouve ça vraiment super comme truc, ouais.
Bah, très bien. Et ben voilà pour ce deuxième chapitre de Inferno. Donc il va falloir être patient et patiente. 8 décembre, tu nous as dit, pour avoir le troisième chapitre. J'ai plus que hâte, bien entendu. J'ai hâte de voir le prochain numéro de X-Force aussi, voir si ça peut donner des indices sur ce qui arrivera bientôt. Et puis donc je te remercie, Quentin, de m'avoir accompagné.
Bah, merci à toi, ça m'a fait très plaisir. Merci beaucoup.
Et puis donc on se retrouve bien entendu fin de semaine pour parler des sorties du 3 novembre 2021. Voilà, je vous fais des bisous. Ciao.
Salut.